Point 7. Demande de dérogation de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire à la proposition du schéma régional de coopération intercommunale transmis par le préfet de région le 5 septembre 2014. Alors, juste un mot d'introduction que chacun connaît bien ici. Vous savez que la loi MAPAM du 27 janvier 2014 a créé une nouvelle organisation territoriale. C'est peut-être plus pour le public que je m'exprime. Donc, elle a créé la métropole du Grand Paris et des intercommunalités de plus de 200 000 habitants. Le schéma régional de coopération intercommunale du 28 août dernier, qui a été décidé et annoncé par le préfet de région, demande que Marne-et-Gondoire soit rattachée à Marne-et-Chantrelle, au Val-Meubleu, à la Brie-Francilienne et au Val-d'Europe. Donc, nous aurions une intercommunalité de 344 000 habitants. Voilà, il se trouve que le conseil municipal de Chelles a voté pour entrer dans le Grand Paris, mais il y a des problèmes parce que est-ce que les délais ont été respectés, non respectés, donc il y a du flou sur la destination de Chelles, voilà. Voilà, nous à Marne-et-Gondoire, on est plutôt opposés car on a des statuts très différents. Marne-et-Gondoire a beaucoup de spécificités. On a un SCOT, un PLH, un PPE, un ANP. Voilà, et je dois dire que Bussy a plutôt trouvé sa place dans Marne-et-Gondoire, mais je laisse la parole à Yann Dubos, qui, comme vous le savez, M. Dubos a été longtemps directeur général de Marne-et-Gondoire.
Alors, on avait déjà eu des débats, notamment au moment du vote de la motion, donc je pense qu'on va reprendre exactement les mêmes éléments. Ce que disait Mme le maire, notamment sur la cohérence territoriale, c'est vrai que plus l'interco est grande, moins l'existence des territoires est garantie. Donc il est vrai effectivement que sur Marne-et-Gondoire, les spécificités permettent juridiquement de demander cette dérogation, c'est-à-dire effectivement de rester dans le périmètre actuel de Marne-et-Gondoire. Ça a tout son sens par rapport au projet structurant de Marne-et-Gondoire, notamment avec l'entrée de Luchy-Saint-Georges en son sein au 1er janvier 2014. On a des documents qui sont faits aujourd'hui, un SCOT, un PLH, un PPENP. PPENP, c'est la protection notamment des zones naturelles et agricoles. Donc voilà, nous avons, nous, structuré notre territoire. Quelle serait réellement, je dirais, la cohérence entre Chelles et Jossigny, entre le Val-Meubuée et Manille-le-Hongres, par exemple? Il y a une vraie question d'opportunité de territoire. Alors certains vont dire, plus on est grand, plus on pèse dans le débat, ce qui n'est pas forcément vrai. Hein, 344 000 habitants aujourd'hui, c'est un non-sens par rapport au développement des territoires. Donc je pense que les territoires de l'Est et de l'Ouest ont déjà une maturité politique importante. Marne-et-Gondoire, en 12 ans d'existence, est en train de constituer cette maturité-là. Donc il faudrait qu'on puisse attendre d'avoir atteint une maturité de territoire pour pouvoir envisager d'être intégré. Parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. On serait intégré dans un espèce de dinosaure, un mastodonte, sur lequel nous n'aurons strictement aucune prise. Donc je pense qu'il faut rester cohérent avec nous-mêmes. Nous avons toujours maintenu le fait que l'intercommunalité de Marne-et-Gondoire est une jeune intercommunalité. Il faut qu'elle vive, il faut qu'elle s'installe dans le périmètre, il faut qu'elle s'installe dans le territoire. Et ensuite, on verra. Donc la demande de dérogation, elle a son sens par rapport, effectivement, à la destinée même de notre territoire. Ne nous leurrons pas, hein, Marne-et-Gondoire, c'est une réserve foncière. Donc moi, je ne voudrais pas que des territoires déjà très urbanisés comme le Val-Meubuée ou Chelles considèrent effectivement que tout l'effort posé sur la nouvelle intercommunalité se passe sur Marne-et-Gondoire et notamment sur Luchy-Saint-Georges. Donc nous devons préserver notre identité parce qu'effectivement elle a du sens, qu'elle est politiquement aujourd'hui largement garantie, et nous devons très clairement pouvoir développer notre territoire avec notre capacité de décision. Et notre capacité de décision aujourd'hui, elle est liée très fortement à l'augmentation du territoire de Marne-et-Gondoire. Il ne faut pas oublier qu'en 12 ans, ça a quasiment doublé de population, avec l'entrée de villes, notamment à partir de 2000, de 2008-2009 à un nombre de villes importants, Montévrain il y a 2 ans, Bussy-Saint-Georges cette année. Donc voilà, donc laissons les choses se développer et ensuite effectivement on pourra envisager d'avoir des coopérations avec les territoires qui sont aujourd'hui nos voisins et avec qui on travaille déjà, notamment sur des projets structurants, notamment les bords de Marne par exemple sont des projets structurants sur l'ensemble du territoire. Marne-la-Vallée, on sait très bien que l'État souhaitait reconstituer le Grand Marne-la-Vallée, mais je dirais pareil, ça n'a pas forcément de sens de constituer Marne-la-Vallée aujourd'hui sur des territoires aussi différents que le secteur 2, secteur 3 ou secteur 4. Donc voilà, donc la proposition de demander une dérogation, je dirais, elle est aujourd'hui votée à l'unanimité de l'ensemble des communes membres de Marne-et-Gondoire, des 18 communes. Donc voilà, donc la solidarité intercommunale joue aussi dans ce genre de délibération.
Monsieur Louis.
Voilà. Je vais reprendre quelques éléments qui sont déjà un petit peu connus. Sur le fond, je vais revenir dessus. Moi, je suis tout à fait favorable, effectivement, à ce qu'on ait une dérogation. Mais sauf que, et c'est ce que j'ai déjà exprimé, il faut aller plus loin. Et plus loin, pourquoi ? Bah, parce qu'effectivement, là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va proposer, on va se dire, on fait une dérogation, on demande une dérogation. Le problème, c'est que ça ne sera pas une dérogation, ça sera forcément 2 dérogations, puisque de ce fait-là, on impacte forcément le Val d'Europe. Du fait que, à cause de la problème de la continuité territoriale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui fait aujourd'hui, et c'est un peu, je m'en étais déjà ouvert, même le 30 juin et à différents moments, et aujourd'hui, même, c'est ce qu'on avait discuté quand on avait fait le SCOT, pour moi, la cohérence territoriale, elle existe, mais elle existe à l'échelle du secteur 3 plus le secteur 4, pour différentes raisons, à la fois sur une cohérence géographique. Ça, on l'a vu, je l'ai expliqué X fois, sur notamment l'exemple typique, c'est le syndicat de transport aujourd'hui qui fonctionne à l'échelle de ce secteur-là, enfin de ces secteurs-là, pardon. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le problème de l'urbanisation actuelle qui est aussi valable sur le secteur 3. Enfin, nous, concernant nous, surtout Bussy, peut-être moins le reste de Marne-et-Gondoire, et puis l'urbanisation que tout le monde connaît aujourd'hui sur le secteur 4. Ça, c'est les 2 points. Donc c'est pour ça de dire... Oui, on a effectivement un SCOT aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier, quand on a fait le SCOT, on a eu quand même quelques difficultés à définir la frange est de notre territoire. Quand je dis notre territoire, c'était le territoire de Marne-et-Gondoire. On a eu un peu de difficultés à définir, notamment avec Montévrain, qui aujourd'hui, c'est quand même la commune qui est à cheval entre les 2 secteurs, parce que la partie bourg est bien ancrée dans le secteur 3, ça personne ne le conteste là-dessus, mais le secteur 4, on a quand même un peu de mal à le mettre dans le secteur 3. Il est plus rattaché au secteur 4 qu'autre chose. Donc ça, c'est des éléments concrets, des éléments simples à comprendre. La frange ouest de notre territoire, bon, ça c'est vrai que la A104 aujourd'hui, comme barrière, on ne fait pas mieux. Ça, personne ne dira que là-dessus. Bon, après, pour revenir à l'histoire de la cohérence, vous citez Marne-la-Vallée. Moi, je cite Marne-la-Vallée au moins à l'échelle du secteur 3 et 4. Que le secteur 2, après, veuille rejoindre le secteur 3 et 4, pourquoi pas, je veux dire, là-dessus, c'est... Bon, après, il y a le problème de la barrière physique de la A104, mais ça, c'est un autre problème qui peut se résoudre tout à fait autrement. Donc, il y a ça. Donc, je suis d'accord, on a des spécificités dans notre territoire. C'est vrai qu'à la différence, peut-être, du secteur 1 et du secteur... enfin, tous les autres secteurs qui sont plus côté Paris, où il y a une urbanisation qui a été effectivement beaucoup plus dense et qui est beaucoup plus dense aujourd'hui que la nôtre... On a quand même l'avantage, effectivement, d'avoir encore des espaces naturels, de les avoir préservés, ça c'est une bonne chose, et l'idée c'est aussi de pouvoir les conserver dans l'avenir. Ça aujourd'hui, c'est plus dur, il faut se battre de temps en temps, mais ça fait partie des éléments importants. Donc c'est pour ça que, voilà un peu tous les éléments, je ne reprendrai pas tout, parce que bon, j'avais quand même dit, l'histoire de Shell, je vous l'avais quand même annoncé le 30 juin, que Shell avait prévu quand même déjà de nous quitter à ce moment-là. Ça s'est fait. Bon, alors après, bon, il y a un problème juridique, etc. Je ne reviendrai pas dessus parce que là, quelque part, ça nous concerne un petit peu moins, même si indirectement, ça nous concerne. Mais on n'est pas partie prenante dans cette histoire-là de savoir qui a raison entre le maire de Shell et les autres autorités. J'en sais rien. Je ne me prononcerai absolument pas là-dessus. Voilà. Donc, ce qui va expliquer... Moi, je pense que nous, de notre côté, et c'est un peu la raison pour laquelle je ne suis pas venu... au conseil communautaire où on a qui était spécifique dédié à ça pour éviter de ne pas avoir la majorité parce que j'aurais pris la même position que l'on va prendre ce soir, c'est-à-dire que je refuse de voter. Je suis pas contre, mais je ne peux pas être pour les raisons que j'ai évoquées. Voilà.
Juste un point complémentaire par rapport à ce que vous dites. Effectivement, ça aurait eu tout son sens, peut-être, je dirais, au démarrage de Marne-la-Vallée. Mais pour se marier, il faut être deux. Et le Val d'Europe, aujourd'hui, qui a déjà du mal à se structurer pour faire une commune nouvelle, puisque c'est un grand projet, effectivement, structurant aussi, pour les avoir rencontrés à plusieurs reprises, le Val d'Europe ne veut pas d'associations particulières avec Marne-et-Gondoire. On travaille ensemble parce qu'on a des projets, vous avez cité le syndicat des transports par exemple, mais la structuration du Val d'Europe en commune nouvelle est déjà suffisamment compliquée pour pouvoir effectivement faire venir 18 communes aussi dans une association spécifique. Je pense que ça aurait pu avoir tout son sens au démarrage. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et ce projet de l'État sur la constitution d'une interco à 344 000, aujourd'hui, elle ne fait que des opposants. Personne, aujourd'hui, n'est pour. Donc, on se retrouve, et je pense que chaque intercommunalité va être amenée à demander des dérogations pour pouvoir, effectivement, continuer à développer son propre territoire. Donc, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, même des associations plus simples, avec moins de communes sur des territoires un peu plus cohérent, aujourd'hui, ne se feront pas. Donc, le Val d'Europe, aujourd'hui, je ne pense pas, soit partie prenante pour pouvoir, juridiquement s'associer à Marne-et-Gondoire. Qu'il y ait des contacts en matière de développement économique et en matière de transport, c'est une chose. Joindre les destins, c'en est une autre.
Madame la secrétaire de Science, merci de noter qu'Yvette Richard est présente, s'il vous plaît. Merci. Autre intervention, excusez-moi. Monsieur Louis.
Non, je voulais pas du tout m'immiscer dans ce qu'est en train d'essayer de faire le secteur 4 avec l'histoire de la commune nouvelle, parce que effectivement c'est pas notre rôle, donc j'ai là-dessus. Mais moi, pour en avoir discuté, notamment quand on avait préparé le dossier sur l'intercommunalité, l'entrée de Bussy dans Marne-et-Gondoire, j'en avais discuté avec quand même pas mal de monde autour de nous. Quand je dis pas mal de monde, c'est-à-dire les communes, les présidents de SAN, enfin le président du SAN à l'époque, c'était pas tout à fait le même discours que vous avez tenu là, je suis désolé. Donc ça, alors après, ce que je tiens à dire, c'est que, il faut pas dire qu'on est contre, il faut aussi proposer une autre solution, parce que c'est pas en étant contre qu'on fait avancer les débats.
La solution, elle est dans les délibérations aujourd'hui. C'est pas contre une méga intercommunalité, c'est que c'est pas le moment de le faire, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas mûrs pour pouvoir effectivement intégrer, de passer de 90 000 habitants à 344 000, ça n'a pas de sens. Ça n'a tout simplement pas de sens.
Je n'ai pas dit le contraire.
Une autre intervention? Bon. Si vous voulez bien. Ah, pardon, madame Pizzi, j'ai pas vu, excusez-moi.
Oui, donc moi j'ai une question de forme et puis ensuite quelques questions de fond sur justement le projet. Question de forme, il aurait été intéressant d'impliquer un peu plus, enfin j'irais d'interroger aussi l'opposition, parce que nous avons deux commissions qui sont ouvertes hein, maintenant, commission finance et commission urbanisme. J'aurais souhaité qu'on puisse faire une commission sur des sujets aussi importants qui engagent justement notre commune et puis qui engagent Marne-et-Gondoire. Deuxième chose, nous, on a reçu donc la convocation après il y a 5 jours, donc il est difficile de pouvoir avoir tous les éléments en main pour pouvoir prendre une décision aussi cruciale. Par ailleurs, je pense, et vous le savez mieux que nous, beaucoup de communes apparemment ont bougé un peu leur choix de se regrouper ou pas. D'autres intercommunalités ont fait aussi des dérogations. Ces dérogations ont été refusées, par exemple le Val d'Europe qui a été refusé le 28 novembre. Quid, je dirais, la proposition de Marne-et-Gondoire, enfin le projet de dérogation de Marne-et-Gondoire, va-t-il être accepté ou pas, et dans quelles conditions? Sachant, je vous dis, le 28 novembre, celui de Val d'Europe a été refusé. Or, il reste entre eux, puisqu'ils ne demandent pas encore de rester dans une, enfin, de rejoindre une grosse intercommunalité. Autre chose, serait-il aussi possible, puisque vous êtes aux affaires et puis vous avez eu des réunions très intéressantes avec M. Chartier, de savoir est-ce qu'il n'y a pas aussi un scénario, bien sûr, pas dans l'immédiat, à court terme, un scénario avec une autre façon de se regrouper. Peut-être pas 300 000, mais une dimension intermédiaire. Quatrième chose, quand je lis le document que nous avons sous les yeux, mais il me manque certains éléments pour apprécier mon jugement, c'est concernant, quand vous dites l'intercommunalité, n'étant ni soumise ni dépendante de l'urbanisme imposé par la ville nouvelle au-delà de Bussy-Saint-Georges, j'aurais souhaité savoir qu'est-ce qu'on fait de Bussy-Saint-Georges, sachant que Bussy-Saint-Georges pèse 90% des logements de Marne-et-Gondoire. Ensuite, lorsque vous parlez également du PLH, c'est-à-dire le programme local de l'habitat, Même chose, comment aujourd'hui s'articule le PLH de Buis-Saint-Georges avec le PLH de Marnay-Gondoire? Nous n'avons pas eu de commission ni d'idée ou d'orientation par rapport à ça. Toujours 90% des logements sont sur Buis-Saint-Georges. Et pour terminer, il y a d'autres questions, mais au moins celle-ci, elle est la plus importante. Lorsque, en effet, au bout de 13 ans, et ça, je suis d'accord que M. Chartier a fait le nécessaire depuis 13 ans, de voir regrouper, fédérer des communes, qui se ressemblent en termes de projets, certainement, en termes de territoire. Il a fait quand même pas mal de projets avec les maires, sans construire de murs, justement, avec les autres communes. Et en effet, au bout de 13 ans, Marnay-Gondoire dit s'engager pleinement contre la lutte de l'étalement urbain. Même chose, j'aurais souhaité savoir, quid Buis-Saint-Georges.
Monsieur Dubosc.
Alors, quand on demande une dérogation, effectivement, on n'a pas l'assurance que cette dérogation va être acceptée par l'État, mais si on ne la demande pas, on ne sera jamais, de toute manière, certain de la réponse. Donc, de toute manière, je pense que la construction de la demande et de cette demande de dérogation, à mon avis, aujourd'hui, est suffisamment structurée pour qu'elle puisse toucher les décideurs au niveau de l'État, et qu'on ait une réponse assez rapide. Donc ça, je ne peux pas préjuger, effectivement, de la réponse de l'État sur cette demande de dérogation. Je pense qu'elle a de bonnes chances d'aboutir parce qu'elle est extrêmement bien construite, et que j'ai pas jugé la demande du Val d'Europe et la raison pour laquelle, effectivement, le Val d'Europe, sa demande de dérogation a été refusée. Mais je pense que celle qui a été présentée par les 18 communes de Marnay-Gondoire, en raison de son poids, en raison aussi, je dirais, de l'avancée d'un certain nombre de documents d'urbanisme, que sont le SCOT, on le disait tout à l'heure, le PLH et le PPUNP, sont des éléments assez uniques en France. Je crois qu'il y a deux PPUNP aujourd'hui. Donc voilà, donc ça permet, je pense, d'avoir des arguments supplémentaires que n'avaient pas forcément nos collègues qui ont demandé des dérogations. Donc je ne préjuge pas de la réponse de l'État, mais je pense qu'elle a aussi des chances d'aboutir.
Toutes les dérogations ont été refusées jusqu'à présent.
Pour l'instant. Donc il en suffit d'une. Mais je ne pense pas qu'effectivement toutes n'aient été refusées en l'état, hein, je crois pas.
Connu.
Après, sur un autre scénario de développement, je pense que c'est assez compliqué puisque les demandes de fusion, elles émanent soit des intercommunalités qui décident effectivement de faire un acte pour s'associer, ou soit de l'État. Je pense que le préfet, par exemple, le préfet de région, va rester très arc-bouté sur des développements d'intercommunalités en disant, le seuil de 200 000, par exemple, est un seuil qui est fixé aujourd'hui par la loi. Donc il va falloir effectivement aussi trouver les conditions de développement, mais l'arrivée coup sur coup de Montévrin, de Buis-Saint-Georges, je pense qu'effectivement là, Marnay-Gondoire et nous-mêmes d'ailleurs, il faut qu'on puisse digérer l'ensemble des conséquences de cette intégration. Aujourd'hui, c'est pas définitivement le cas. Donc refaire un autre scénario aujourd'hui serait contre-productif par rapport à la demande de dérogation que l'on fait aujourd'hui à l'État. Donc il n'y a pas de scénario bis, je dirais, aujourd'hui dans l'État.
À court terme, en fait.
Négocié.
Hein. À court terme. Pas dans l'immédiat, mais à court terme. Mais parce qu'on sera amené, dans tous les cas, apparemment, d'après les directives, jusqu'en 2016, de pouvoir aussi répondre à des exigences de
Absolument.
Préfet de région.
Absolument. Mais comme on le disait effectivement tout à l'heure, pour s'associer, il faut être au moins deux. Et c'est vrai qu'à un moment ou un autre, ça avait du sens, par exemple, avec Ferrières et l'intercommunauté de Ferrières, pour faire un secteur 3, par exemple, unique. Ça avait aussi, effectivement, aussi du sens. Donc, après, il y a des décisions politiques. Donc, pour l'instant, les scénarios bis ne sont pas encore strictement d'actualité. Je pense que ça va dépendre aussi de la réponse de l'État. Après, sur le logement avec PLH, ça, ce sont des éléments aujourd'hui qui sont en discussion, puisqu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le secteur 3 dans son ensemble est considéré par l'État comme une réserve foncière. Donc là aussi, il va falloir qu'on puisse se battre pour avoir un développement qui soit le plus harmonieux possible, tout en conservant les zones, je crois que c'est M. Louis qui l'évoquait tout à l'heure, les zones de protection, par exemple, liées au PPENP, sont inconstructibles. Il faudra un décret en Conseil d'État pour les libérer, pour devenir effectivement une zone constructible. Donc l'étalement urbain aujourd'hui Je pense que sur un certain nombre de zones, il est très largement maîtrisé. Après, le PLH de Bussy et le PLH de Marnay-Gondoire, je pense qu'aujourd'hui, c'est des éléments qui sont largement en étude pour pouvoir déterminer quelle est la part de logement que prend Marnay-Gondoire au niveau de l'atoll, quelle est la part de logement que prend Marnay-Gondoire au niveau du SCOT. Ce sont des éléments, effectivement, qui avaient été négociés. Ce sont des éléments aussi qui détermine notre santé financière et notre santé budgétaire dans les années à venir. Donc nous avons aujourd'hui négocié un certain nombre de points avec EPAMARN pour éviter que les logements tels qu'ils auraient pu nous être imposés soient aujourd'hui très largement renégociés.
Exemple ?
Par exemple ?
Oui, par exemple.
Le sycomore. Le sycomore, aujourd'hui...
Quels sont les éléments que vous avez négociés ?
Aujourd'hui, il n'est pas question... Tant qu'on n'a pas revu et assaini les finances de la commune, de lancer le sycomore en l'état. Il n'en est pas question. D'accord. Donc après, s'il y a bagarre juridique, s'il y a contestation de part et d'autre, s'il y a contradiction avec le SCOT et l'atoll, eh bien je dirais on assumera effectivement ces oppositions, ces contestations, et je pense qu'on ira jusqu'au bout de la démarche. Aujourd'hui, on ne peut pas atteindre, accueillir 15 000 personnes supplémentaires sur le sycomore dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. C'est tout simplement impossible. Et l'État ne peut pas être schizophrène au point de dire « vous devez assainir vos finances publiques » et de l'autre côté, nous balancer un nombre de logements imposés. Aujourd'hui, même si juridiquement c'était possible, je vois mal un préfet signer des permis de construire en lieu et place d'une mairie alors qu'on a une situation budgétaire telle qu'est la nôtre aujourd'hui.
Je suis d'accord avec ces propos-là parce que nous les partageons. Par contre, le statut de la vie nouvelle de l'OIN, est-ce que ça ne va pas nous handicaper par rapport à ce que vous venez de dire en disant que nous maîtrisons notre charge foncière ?
Aujourd'hui, attendez, juste un mot. Aujourd'hui, Madame Pizzi, nous maîtrisons les logements sur Bussy-Saint-Georges. Et l'EPAMARN comprend nos préoccupations et nos recommandations. Je veux dire, il n'y aura pas un nouveau logement sur le sycomore avant 2017, voire 2018. Il y a un certain nombre de projets qui ont été gelés, voilà, et nous avons un dialogue constructif avec EPAMARN, de grande écoute de la part de Monsieur Ferrand, de Monsieur Hermé, voilà. Et je dois dire aussi, parce que je tiens à le dire, je pense que Bussy-Saint-Georges a trouvé sa place dans la communauté d'agglomération de Marnay-Gondoire. Elle a trouvé une place constructive et un dialogue constructif avec le président de Marnay-Gondoire et les autres maires, voilà. Donc, c'est vrai que nous avons à cœur ce soir que Bussy-Saint-Georges, comme les 17 autres communes de Marne et Gondoire, effectivement, votent ce texte pour aller contre ce que souhaite le préfet de région. Et je pense que nous avons des chances pour rester, pour un certain nombre de raisons, autonomes dans cette grande intercommunalité et d'avoir une dérogation. Voilà. Maintenant, si par malheur la dérogation n'avait pas lieu, mais des contacts que j'ai, je pense que nous aurons une dérogation et le président Chartier est assez optimiste sur ce sujet. Voilà.
Justement, juridiquement, quelle est l'articulation entre le statut de la ville nouvelle de Bussy-Saint-Georges et Marnay-Gondoire dans ce...
Mais attendez, ça ne pose pas de problème. Je vois, Marnay-Gondoire va reprendre le droit du sol à partir dans quelques mois, sauf pour Bussy-Saint-Georges. Donc Bussy-Saint-Georges à son statut autonome. Je veux dire, il y a un dialogue constructif. C'était mardi avec M. Chilewski. Nous avons reçu les chefs d'entreprise de la zone Gustave Eiffel. Marnay-Gondoire va financer tous les investissements pour sécuriser la zone d'activité Gustave Eiffel. Nous avons M. Chartier et moi-même reçu en même temps avec M. Chilewski et les services de la mairie dans cette salle l'ensemble des chefs d'entreprise de la zone Gustave Eiffel. Donc Marnay-Gondoire va financer les équipements, même les caméras de vidéoprotection que nous allons rajouter. Marnay-Gondoire, mais c'est quand même nous aussi, puisque nous payons les impôts, nous allons également nous engageons à financer l'entretien et le renouvellement si jamais il y avait des problèmes. Voilà, et on a demandé aux chefs d'entreprise de créer une association et de signer une convention avec eux pour assumer les frais de fonctionnement. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, Bussy a trouvé sa place dans Marne-et-Gondoire. Probablement, et nous avons eu des négociations avec M. Chartier, c'est un autre débat, pour revoir des modes de coopération, entre autres financières. Et donc, moi, je trouve, ma majorité est très favorable, comme les 17 autres communes, à ce que nous demandions cette dérogation pour Marne et Gondoire reste seule.
Je reprends, parce que pour moi, c'est pas clair. Quand on reprend le schéma de cohésion territoriale, dans le document qui nous a été joint aux convocations, il y avait marqué que Marne et Gondoire s'engage à construire 1384 logements par an, donc y compris Bussy.
Et vous voyez bien aujourd'hui, effectivement, que la part de Bussy-Saint-Georges dans la construction de logements n'a pas été actée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été faite.
Alors, justement, l'intérêt aussi de cette délibération, puisqu'on parle quand même de Bussy-Saint-Georges, il aurait été souhaitable d'avoir aussi un projet, puisque comme Bussy-Saint-Georges fait partie d'un statut quand même à part, vous venez de le dire, comment nous on peut s'articuler dans ce programme ? Même dans le programme du PLH, moi je ne suis pas contre, au contraire, comme vous dites si bien, il faut qu'on puisse travailler avec Marne-et-Gondoire pour pouvoir planifier selon nos besoins et selon nos dépenses et nos recettes. Oui. Ça, on est tous d'accord.
Absolument.
Et aujourd'hui, on n'a pas la lisibilité là-dessus.
Mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est en train de construire cette lisibilité-là, puisque la capacité de construction de logements de Bussy dépend de sa capacité à pouvoir intégrer effectivement les dépenses futures. Aujourd'hui, cette lisibilité-là, on est en train de la construire. On est en train de la construire aussi avec Epamarne et avec M. Chartier. Donc les conséquences du SCOT sur 2014 et 2015 jusqu'en 2018, aujourd'hui, ne sont pas actées sur Bussy parce que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir effectivement les faire. Donc la construction de cet aménagement futur, intégrant les éléments du PLH, intégrant la construction, je dirais, de logements, se feront au rythme que Bussy décidera de faire et pas au rythme que l'OIN devrait porter ou que l'Interco devrait porter. Ce n'est pas possible. L'Interco se substituera pas à nous pour gérer les déficits ou les dettes si on respectait aujourd'hui à la lettre l'ensemble des constructions de logements. Donc on est bien seul aussi à décider et maîtriser notre destin en la matière. Donc pour l'instant, les 534 logements ou 530 logements effectivement issus du SCOT ne sont pas possibles, tout simplement.
Ils ne sont pas possibles. Actuellement, vous êtes en accord avec les Pamarnes et les Marne-et-Gondoire pour pouvoir planifier les logements sur X années.
Non, mais attendez, Madame Pizzi, Marne-et-Gondoire aujourd'hui ne s'occupe pas des logements.
Par rapport au PLH, si.
Oui, enfin, attendez. Pour le moment, je veux dire, Marne-et-Gondoire n'a pas été invité dans des réunions de négociation entre Epamarne et la mairie. Voilà. Bon.
On a un échange. on a un échange avec l'intercommunalité.
On est autonome dans l'intercommunalité.
Mais aujourd'hui, tout le monde a intérêt. Tout le monde a intérêt aujourd'hui dans l'intercommunalité à ce que Bussy se redresse. Donc personne ne viendra effectivement remettre en danger ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur l'assainissement des finances publiques. Donc personne ne viendra remettre ça en cause. Et le principal interlocuteur en la matière, Epamarne, l'a parfaitement bien compris. Puisqu'aujourd'hui, dans les négociations qu'on est en train d'avoir avec eux, ils sont bien conscients que construire... construire des logements tels qu'ils étaient prévus au démarrage sur le Sycomore viendrait grever très gravement les finances publiques de Bussy-Saint-Georges. Donc je pense que ce rapport d'intelligence que l'on a effectivement avec nos partenaires démontre qu'on est bien sur la même longueur d'onde aujourd'hui.
Je voudrais juste rapporter une petite chose parce que là, quand on écoute Yann Dubosc, on a l'impression qu'on est dans un monde de bisounours. C'est pas vrai, je suis désolé. Il y a quand même des éléments qui vont s'imposer à nous quelque part à un moment ou à un autre. Là, vous avez... Tout le monde... Ça ne vous dérange pas que je finisse mes propos ? Merci. Chacun son tour. Hein. Alors, je veux... Qu'est-ce qui se passe ? Donc, les 1384 logements qu'il va falloir construire à l'échelle de Marne-et-Gondoire, qui ne sont que 550 au niveau de Bussy-Saint-Georges, ceux-là, à un moment ou à un autre, ils vont s'imposer. Je suis désolé, ça s'appelle une loi. Soit on déroge à la loi, mais dans ce cas-là, il faut faire une demande. Mais a priori, à ma connaissance, dans la loi Toll que Chantal Brunel a votée, ça n'existe pas, la possibilité de dérogation. C'est bien justement le contexte de la loi, et c'est là-dessus qu'on avait quand même un petit peu mis le point qui n'était quand même pas si évident que ça. Donc c'est pour ça que je dis, là, à mon avis, tout ce qu'on entend, c'est de dire tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on va nous écouter, on va, etc. C'est pas vrai, je suis désolé, ça se passe pas comme ça.
Et M. Louis, dans une négociation et dans un dialogue, je dirais, ouvert, c'est pas être bisounours ou être violent ou quoi que ce soit, c'est obtenir des résultats. Nous avons obtenu des résultats par la négociation sur le fait qu'il n'était pas possible aujourd'hui de faire les 550 logements par an prévus dans l'atoll. Point.
D'ailleurs, Monsieur Louis, vous remarquerez qu'à Bussy-Saint-Georges, à part la grue du complexe sportif, il n'y a plus une grue à Bussy-Saint-Georges. Okay. Il n'y a plus une grue. Et je vous dis, et je vous répète, que nous avons été élus sur un programme du gel du Sycomore. Il n'y aura pas un logement, neuf livré avant fin 2007, voire 2018. Voilà, je vous le dis, et que les deux permis de construire qui ont été accordés tacitement, je voulais dire, de toute façon, il y a des retards, j'ai vu, et pour le moment, il n'y a rien. Et les nouveaux constructeurs, pour le moment, ils ont rendu l'argent, la commercialisation, les gens ont rendu l'argent, car il y a eu effectivement une action en justice sur ce sujet. Donc vous savez, vous apprendrez qu'on tient nos engagements. La majorité actuelle a été élue sur deux engagements forts, le gel du Sycomore, tant qu'on n'aura pas baissé de 15% la taxe d'habitation, apprenez que ça, on le fera. On le fera. Voilà.
On en reparlera. Donc je vais juste réexpliquer notre vote. Le plus simple, c'est de décompter les 6 voix de notre groupe, parce qu'on refuse de participer au vote pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Je ne reviendrai pas dessus.
Donc, le groupe de monsieur... Alors, ça n'existe vraiment pas. Ça s'appelle NPPV au Conseil
régional. Si vous voulez, on sort 5 minutes. Non.
Donc, vous ne participez pas au vote. Je demande à ceux qui font le compte-rendu de bien marquer que le groupe de BC Continue Ensemble ne prend pas part au vote. Donc, nous allons mettre aux voix... Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, demande qu'une dérogation à la proposition du schéma régional de coopération intercommunale transmis par le préfet de région le 5 septembre 2014 puisse être octroyée à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Qui est contre? Donc il y a 1, 2, 3, 4 voix contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Il est adopté. Cette demande de dérogation est adoptée. Merci.